France Culture.
On fait le point sur l'info, c'est le journal de la rédaction avec vous Thomas Cluzel, rebonjour.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. L'Europe seule face au défi de sa défense. Nous serons à Bruxelles dès le début de ce journal pour l'ouverture d'un Conseil européen crucial dans un contexte géopolitique fortement bousculé par les récentes toquades de Donald Trump et la poursuite de la guerre en Ukraine. On se demandera à quelles premières avancées concrètes s'attendent. On en parlera aussi avec notre invité aujourd'hui, le général Olivier Kempf. S'agissant justement de l'Ukraine, on reviendra sur cette frappe russe mortelle et éminemment symbolique la nuit dernière sur un hôtel abritant des humanitaires. On tâchera également de décrypter la nouvelle approche des États-Unis vis-à-vis du mouvement islamiste Hamas et puis l'actualité en France et notamment cette annonce ce matin de Martine Aubry qui fait savoir qu'elle va quitter la mairie de Lille après quasiment un quart de siècle. L'ordre occidental tel qu'il pouvait se concevoir jusqu'à présent existe-t-il encore ou bien le souvenir trompeur de la doctrine atlantiste doit-il nous encourager à repenser les règles de la coexistence, voire forger de nouvelles alliances, à tout le moins les mouvements géopolitiques et idéologiques à l'œuvre aujourd'hui, ce véritable bouleversement à la fois tectonique et historique impose-t-il à l'Europe de resserrer ses rangs, quitte à opérer une mue sans précédent, se transformer en une puissance militaire capable de montrer à son tour les dents, elle qui à l'origine avait été bâtie pour garantir la paix sur le vieux continent. C'est ainsi que face à la menace russe d'un côté et à celle du désengagement américain de l'autre, les 27 pays de l'UE se retrouvent donc aujourd'hui à Bruxelles pour un sommet extraordinaire destiné à muscler leur défense mais aussi à rassurer l'Ukraine. Reste à savoir comment parvenir à un accord sur les détails pratiques d'un texte alors même que les 27 ne sont toujours pas parvenus par exemple à décider du montant de l'aide militaire à apporter à l'Ukraine cette année. Sans compter que si la proposition de la Commission devrait être plutôt bien accueillie par la grande majorité des dirigeants du bloc, le Premier ministre hongrois Viktor Orban menace lui déjà d'y opposer son veto. Fabien Cazot, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
En direct de Bruxelles, le sommet vient à peine de commencer. Sur quoi peut-on imaginer, Fabien, de premières avancées concrètes dès aujourd'hui ?
Alors avant tout sur la liste des équipements militaires qui seront définis comme prioritaires par les 27, ceux dont les pays européens manquent le plus en fait hein, en matière de défense aérienne, d'artillerie y compris de longue portée, de missiles, de drones et de systèmes de défense anti-drones. Ce sont les 5 domaines sur lesquels l'effort européen portera, financés par les plans européens ou nationaux qui ont déjà commencé à être annoncés cette semaine, notamment les 800 milliards que la Commission européenne a mis sur la table avant-hier. Les chefs d'État et de gouvernement devraient lui demander à la Commission, en conclusion de leur sommet ce soir, de faire encore de nouvelles propositions, tout en se réjouissant déjà des mesures annoncées. C'est notamment ce que vient de faire le président du Conseil, Antonio Costa, qui accueillait avec la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. La présidente de la Commission européenne remerciée donc par les chefs d'État et de gouvernement pour la tolérance sur les déficits budgétaires qui sera introduite dès lors qu'ils servent à financer l'effort de défense européen. Concernant l'Ukraine plus précisément, le Conseil européen réaffirmera aujourd'hui son soutien sans faille à Kiev, 30 milliards d'aides financières prévues encore cette année, doublé d'une aide militaire que les Européens comptent bien poursuivre avec des livraisons d'armes et des formations pour les militaires ukrainiens qui auront à s'en servir.
Merci Fabien Cazot en direct de Bruxelles. Alors c'est encore dans ce contexte qu'hier soir, Emmanuel Macron, costume et cravate noire, a évoqué sans détour dans une allocution télévisée au ton grave, sinon dramatique, la menace russe qui plane sur l'Europe et la France. La patrie a besoin de vous et de votre engagement, encore dit le président, laissant entendre par ailleurs qu'un investissement massif dans la défense européenne impliquera un effort budgétaire difficile, eu égard aux finances publiques très dégradées du pays, mais sans que les impôts ne soient augmentés, a promis le chef de l'État, évoquant pour cela des solutions de demain qui ne pourront être les habitudes d'hier, comprenez des réformes. De son côté, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a lui avancé un chiffre et quelques pistes de financement. Il était invité ce matin de nos confrères de France Inter.
En 2017, on était à un peu plus de 30 milliards d'euros. Au moment où je vous parle, on est à 50,5 milliards d'euros. Notre plan en 2030, c'était de l'emmener autour de 68 milliards d'euros par an. Il faut accélérer de toutes les évidences. Mes premières estimations, des travaux que le président de la République m'a demandé, on pourrait estimer que notre armée pourrait atteindre un point de forme convenable en fonction des différentes missions qu'on attend d'elle, autour de 90 milliards d'euros par an.
Où
par
on
ailleurs,
va prendre
et c'est
l'argent.
Pour ça que ne pas augmenter les impôts me semble être absolument clé, y compris pour notre attractivité.
Où on va prendre l'argent pour trouver les dizaines de milliards de plus à mettre dans l'armement.
Il y a forcément de l'argent public, on ne va pas s'y dérober. Il y a évidemment des mutualisations européennes, c'est l'objet du Conseil européen. Je pense qu'il y a des pistes intéressantes de mobilisation de l'épargne des Français. Mobilisation volontaire. Des programmes d'armement, c'est de l'industrie. En plus, c'est de l'industrie française. On n'achète pas à l'étranger. C'est de la création de richesses sur le territoire national.
Donc appeler les Français à mettre de l'argent pour l'armement.
Sur des équipements de défense qui parfois vont avoir des durées de vie de 10, 15, 20. Un porte-avions, c'est 40 années. Ça veut donc dire que vous pouvez amortir. Donc, c'est de se dire, pour les Françaises et les Français qui veulent placer de l'argent de manière patriotique, voire rémunérer cet argent, alors c'est patriotique, donc on imagine que les taux de rémunération seront peut-être modestes, j'en sais rien, je ne suis pas ministre d'économie et finances, mais de se dire que cet argent-là va permettre de réarmer le pays, je trouve que c'est intéressant comme idée.
Voilà, le ministre français donc des armées, Sébastien Lecornu. Et pour continuer de s'interroger toujours sur cette stratégie de défense européenne, invité à présent de la rédaction, Olivier Kempf, docteur en sciences politiques et directeur du cabinet de synthèse stratégique, La Vigie. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Peut-être pour commencer, on l'a déjà un peu esquissé avec Fabien Cazot, en quoi consiste donc précisément ce plan de réarmement européen ?
Si vous écoutez ce que dit Ursula von der Leyen, il y a deux tranches. Il y a une tranche à 150 milliards qui consiste en l'argent européen. C'est le reliquat des prêts Covid qui n'ont pas été employés. Et puis, il y a 650 milliards qui sont un peu de la monnaie un peu fictive, disons les choses simplement. Pourquoi ? Parce qu'on nous parle des critères de Maastricht et d'aller au-delà de 3%. Mais quand vous regardez, vous avez tout un tas de pays qui ont dépassé les critères de Maastricht depuis très longtemps. On est en France à plus de 5% de déficit du PIB. Donc, dire vous avez le droit d'aller au-dessus de 3 alors qu'on est déjà à 5. Mais c'est très bien parce que ça témoigne, si vous voulez, d'un autre côté, que c'était quelque chose qui était promu par exemple par les Français et par ceux qui étaient en faveur d'une défense européenne depuis longtemps. Ça prouve que les esprits changent à Bruxelles alors qu'il y avait encore des réticences, voire des résistances jusqu'à il y a encore pas très longtemps.
Les esprits changent, dites-vous. Les déclarations des Européens paraissent parfois pourtant divisées, sinon contradictoires. Tous n'ont pas aujourd'hui les mêmes intérêts ni les mêmes attentes.
Absolument, pour une bonne et simple raison, c'est que vous avez le cas ukrainien, mais en fait, les Européens réfléchissent à deux choses au-delà du cas ukrainien. La question, c'est est-ce qu'on peut être simultanément adversaire, on va utiliser ce mot assez fort, mais adversaire simultanément de la Russie et des États-Unis. C'est ça la question. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron hier dans son discours a été assez prudent dans son dialogue avec les États-Unis. Et vous avez tout un tas d'Européens qui disent « Ok, Trump est extrêmement désagréable, on va dire les choses poliment, mais malgré tout, il y a moyen de négocier, il y a moyen de sauver le lien transatlantique à tout prix. » Et ça pose bien évidemment une tension par rapport à ceux qui disent « Oui, mais les Russes, c'est eux notre principal problème. » Et donc, vous avez évidemment une division européenne, ne nous leurrons pas, et qui va achoper sur des points de détail. Votre journaliste les a évoqués, mais au-delà des points de détail, il y a des positions qui sont très différentes, qui sont très difficiles à conjuguer.
À ce titre, justement, est-ce que l'Union européenne est réellement le lieu de la construction d'une défense européenne? En clair, quand bien même les 27 auraient les moyens financiers de se réarmer, est-ce que l'UE en tant qu'entité constitue une ossature solide pour une défense européenne?
Non, disons les choses là aussi assez simplement. Et c'était l'intérêt, si vous voulez, des propos de Madame von der Leyen de rester dans son domaine, dans son couloir de nage, qui est celui du budget et des questions économiques, parce que c'est finalement la spécialisation de l'Union européenne. La défense de l'Europe, traditionnellement, c'était l'Alliance Atlantique et son organisme, l'OTAN. Aujourd'hui, tout le débat, si vous voulez, c'est quels outils on va pouvoir prendre dans les institutions qui existent, qu'il s'agisse de l'Alliance, qu'il s'agisse de l'Union, et est-ce que l'on ne va pas devoir créer des nouveaux outils, des nouveaux cercles, des nouveaux moyens, justement pour répondre aux besoins d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut parler d'Europe. L'Europe, elle inclut des pays comme le Royaume-Uni à l'évidence, ou comme la Norvège, qui font partie de l'Alliance, qui font pas partie de l'Union. Elle inclut des pays comme l'Irlande et l'Autriche, qui font partie de l'Union et qui font pas partie de l'Alliance. Et est-ce qu'il faut être absolument à 30 pour créer quelque chose ? Peut-être qu'il faut, au contraire, partir à des cercles beaucoup plus restreints de gens qui sont assez d'accord sur ce qu'ils veulent faire, sachant que, et le ministre le sous-entendait, sachant que le lieu du réarmement et la réindustrialisation sera logiquement national. Et là aussi, c'est une priorité, pour le coup, qui est partagée par tous les Européens.
Une dernière question. Un renforcement des dépenses de défense en Europe ne serait jamais qu'un premier pas, mais rien ne dit que la Russie aura l'obligeance de bien vouloir laisser aux Européens le temps de se mettre en ordre de défense. Quels sont les risques réels qui se posent aujourd'hui ? Ce matin, Moscou qualifie de hautement conflictuel l'allocution d'Emmanuel Macron.
On n'est pas surpris de la réaction de Moscou, entre nous. Ce qu'il y a, c'est que la Russie s'est placé en économie de guerre depuis maintenant 2 ans. C'est-à-dire que la première année, ils ont été surpris de pas emporter l'Ukraine du pichenet, de voir une Ukraine résistante. Ils ont mis un peu de temps à réagir, mais maintenant, ils ont réagi. Alors, est-ce qu'ils sont au bout du rouleau ou pas ? Il y a beaucoup de débats là-dessus. En revanche, ils sont bien évidemment en mobilisation de leur économie, de leur industrie, de reconstruction de leur appareil militaire, quelle que soit la guerre qu'ils sont en train de mener. S'agissant des Européens, aujourd'hui, on a délégué énormément de choses, finalement, aux Américains. La grande question, c'est pour espérer remplacer ces choses, qu'il s'agisse de renseignement, qu'il s'agisse de moyens de communication, qu'il s'agisse d'aviation de longue portée, qu'il s'agisse de grande logistique, etc., de défense solaire. Vous voyez, je veux dire, la liste est longue, malheureusement. Il faut européen 5 ans. Cela étant, ne nous leurrons pas, vous avez une dissymétrie du poids économique évidente entre les Européens et les Russes, qui font que les Russes vont réfléchir à deux voix. Ça fait 3 ans qu'ils essayent d'abattre l'Ukraine, ils y sont pas. Ils vont réfléchir à deux fois avant d'aller chercher les Européens.
Et l'on terminera par ces mots.
Ça impose la défense.
Merci.
Il faut augmenter nos dépenses. Ça,
merci Olivier Kempf, docteur en sciences politiques, directeur du cabinet de synthèse stratégique La Vigie, d'avoir répondu à notre invitation. Pardon pour cette liaison parfois un peu capricieuse. Merci également à Louise Morfoise pour la préparation.
Ce plan de stratégie de défense rebat nécessairement les cartes pour l'économie européenne et ajoute donc aussi aux incertitudes de la Banque Centrale Européenne.
Oui, car les opposants à une poursuite de la détente monétaire pourrait sortir renforcé malgré tout. Et à l'issue de la réunion aujourd'hui des gardiens de l'euro, une nouvelle réduction de taux semble acquise, notamment pour marquer la confiance de l'institution dans le retour progressif de l'inflation à l'objectif de 2%, mais aussi pour soutenir le crédit et donc la reprise économique. Alors toujours s'agissant de ce sommet à Bruxelles, on l'a dit, le président ukrainien fait lui aussi partie de la réunion, Volodymyr Zelensky, qui appelle ce matin à ne pas relâcher la pression sur la Russie, et notamment au lendemain d'une frappe sur un hôtel dans lequel se trouvaient des humanitaires américains et britanniques. Le dernier bilan fait état d'au moins 4 morts et plus de 30 blessés, dont près de la moitié dans un état grave. Ce matin encore, les secouristes s'affairent dans les décombres dans l'espoir d'y retrouver des survivants. Il faut dire qu'en plus de l'hôtel, 14 immeubles résidentiels, un bureau de poste, 12 commerces ont été endommagés. Et puis cette attaque de l'envahisseur Omar Waman n'a pas frappé au hasard, puisque la ville de Kryvyi Rih, sorte de verrou stratégique entre le sud et l'est, est aussi la cité natale de Volodymyr Zelensky.
Oui, c'est dans cette cité industrielle de l'ère soviétique au centre de l'Ukraine que le président Zelensky est né il y a 47 ans. Kryvyi Rih, 600 000 habitants avant l'invasion russe en 2022, s'étale sur plus de 100 km, ce qui en fait la ville la plus longue d'Europe. Elle est située à 80 km seulement du front et devient rapidement une base arrière stratégique pour l'armée ukrainienne, une ville dont l'industrie va entièrement se tourner vers l'effort de guerre. Une véritable forteresse avec ses 8 lignes de défense, ses tranchées et ses nombreux checkpoints qui l'encerclent. La Russie a bien tenté de prendre la ville à l'aide d'une colonne de chars dans les premiers jours de la guerre, mais s'est heurtée à la résistance de l'armée ukrainienne qui avait bloqué tous les accès grâce à des camions géants. Un verrou que le Kremlin n'est pas parvenu à faire sauter. Depuis, il s'emploie à bombarder régulièrement cette ville, des frappes meurtrières, souvent nocturnes, à coups de missiles balistiques, que les défenses antiaériennes ukrainiennes ne parviennent pas à intercepter, comme celle d'hier soir sur un hôtel où se trouvaient des personnels humanitaires, américains et britanniques, qui ont survécu.
Fidèle à sa ligne de ne pas parler à des mouvements placés sur la liste des organisations terroristes, jamais, jusqu'à présent, l'administration américaine n'avait dialogué directement avec le Hamas.
Or, hier, des négociations secrètes se sont bien déroulées au Qatar, des discussions sur la deuxième phase du cessez-le-feu toujours dans l'impasse et qui risque de le rester encore longtemps puisque le même jour, Donald Trump a lui lancé un nouvel avertissement sans concession menaçant directement de mort ceux qui détiennent encore des otages israéliens. Un ultimatum, Thibault Lefèvre, dont le mouvement islamiste craint ce matin qu'il n'encourage l'État hébreu à se soustraire un peu plus à l'accord de trêve déjà chancelant.
C'est Adam Boehler, l'envoyé spécial américain pour les otages, qui négocie directement au Qatar avec des représentants du Hamas. L'État hébreu dit avoir été informé des pourparlers par d'autres canaux, autrement dit pas par les États-Unis. Gershon Baskin est un ancien négociateur israélien. Il a notamment contribué il y a près de 15 ans à la libération du soldat Gilad Shalit contre plus de 1000 prisonniers palestiniens, dont Yahya Sinwar.
Les négociations directes, c'est une bonne chose. Briser ce tabou, c'est un développement positif. Netanyahou ne peut rien refuser à Trump, qui est aujourd'hui l'interlocuteur le plus important. Il a les cartes en main et le pouvoir de décider si les otages vont pouvoir rentrer à la maison.
Hier, Donald Trump a lancé un nouvel ultimatum au Hamas, exigeant que l'organisation islamiste libère tous les otages pour ne pas subir de nouvelles frappes israéliennes.
Trump peut donner le feu vert à Israël pour que la guerre reprenne. Netanyahou est assez fou pour le suivre. Et pourtant, l'armée n'a pas de cible, elle ne saurait pas quoi faire.
Il y a près d'un mois, le président américain avait formulé la même demande sur le même ton, promettant l'enfer au Hamas, sans effet pour le moment. Il y a encore 59 otages à Gaza et les négociations continuent.
Midi et 46 minutes sur France Culture, la suite de votre journal, Thomas Cluzel.
Martine Aubry passe la main à la tête de sa ville depuis 2001. L'inamovible maire socialiste de Lille a annoncé ce matin son départ pour les prochains jours. Elle l'a fait devant les journalistes à l'occasion d'une conférence de presse qu'elle avait elle-même convoquée, au cours de laquelle elle aura longuement dressé son bilan. L'occasion aussi, Rosalie Lafarge, à un an des prochaines municipales et à 74 ans, d'organiser sa succession.
Sa gorge se noue l'espace de quelques secondes. Martine Aubry, débordée par sa propre émotion, ce n'est pas si fréquent.
Ça arrive.
Mais elle tourne là une longue page pour elle et pour Lille.
Je suis élue à Lille depuis 30 ans. Je suis maire depuis 24 ans, ça ne vous a pas échappé. Notamment certains qui... Il serait temps qu'elle dégage. Bon ben oui.
Elle assure avoir encore de l'énergie et des idées, mais le temps est venu, juge Martine Aubry, de passer la main à une nouvelle génération. Celle qui n'a plus lâché le beffroi depuis que Pierre Mauroy l'y a installé avait prévu, dit-elle encore, de le faire maintenant, à un an des municipales, sous conditions.
Ces conditions, c'était d'abord que tout ce que nous avons prévu, promis aux Lillois dans ce mandat, soit engagé. Or aujourd'hui, la quasi-totalité est réalisée ou engagée et sera terminée.
Le sentiment du devoir accompli et la construction, selon elle toujours, d'une équipe solide qu'elle entend désormais, sous réserve de la validation du conseil municipal, voire menée par son premier adjoint Arnaud Deslandes.
Les Lillois seront appelés à choisir leur maire, mais je suis convaincue qu'en ayant vu Arnaud et son équipe à l'œuvre en fonction pendant un an, ils auront envie de continuer avec lui.
Mais à 74 ans, Martine Aubry n'a pas tout à fait dit son dernier mot non plus.
Je souhaite continuer à travailler pour la gauche et principalement pour le Parti Socialiste. Je veux que le Parti Socialiste retrouve effectivement une voix auprès des Français et soit capable de diriger le pays.
Ne l'imaginez pas pour autant se lancer dans la course à la présidence du parti. Martine Aubry, qui l'a déjà dirigé de 2008 à 2012, ne brigue, jure-t-elle, aucune nouvelle fonction.
Une banquise mondiale au plus bas et des températures mondiales toujours au plus haut après 2024 et sa litanie de records et de catastrophes climatiques. L'hiver 2025 vient à son tour illustrer le réchauffement de la planète. Le mois dernier, la surface cumulée de la banquise a atteint un minimum historique selon le bulletin mensuel publié par l'Observatoire Copernicus.
Sunshine. Everybody loves the sunshine.
Il surfait avec élégance entre le jazz, la soul et le funk, pionnier notamment de l'acid jazz. Il était révéré comme une légende par les plus grands avec près de 50 albums produits à l'origine, 2001 reprises et autres samples. Il restera comme l'un des virtuoses de génie de la musique afro-américaine. On l'a appris ce matin, le compositeur, chanteur, vibraphoniste californien Roy Ayers est décédé des suites d'une longue maladie. Il était âgé de 84 ans. Everybody loves the sunshine. Tout le monde aime le soleil. Ça tombe bien puisque cet après-midi, c'est un temps printanier qui s'imposera sur la moitié nord du pays, légèrement plus voilé au sud. Quant aux températures, elles seront comprises entre 14 et 16 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.